Roald Dahl. Mathilda. Une adorable petite dévoreuse de livres. Père et mère sont gens bien curieux. Même lorsque leurs rejetons sont les pires des poisons imaginables, ils persistent à les trouver merveilleux. Certains parents vont plus loin. L'adoration les aveugle à tel point qu'ils arrivent à se persuader du génie de leur progéniture. Mais, après tout, quel mal à cela ? Ainsi va le monde. C'est seulement quand les parents commencent à nous vanter les mérites de leurs odieux moutards que nous nous mettons à crier « Ah non, assez ! Vite, de l'air, vous allez nous rendre malades !» Les enseignants souffrent beaucoup d'avoir à écouter ce genre de balivernes proférées par des parents gonflés d'orgueil. Mais, en général, ils se rattrapent dans l'établissement des notes en fin de trimestre. Si j'étais professeur, je concocterais des appréciations féroces pour les enfants de radoteurs aussi infatués. « Votre fils Maximilien, écrirai-je, est une nullité totale. J'espère que vous avez une entreprise familiale où vous pourrez le caser à la fin de ses études, car il n'a aucune chance de trouver nulle part ailleurs le moindre emploi. » Ou bien, si je me sentais lyrique ce jour-là, je dirais « Que les organes de l'ouïe des sauterelles se trouvent au flanc de leur abdomen est une curiosité de la nature. En juger par ce qu'elle a appris au cours du dernier trimestre, votre fille, Vanessa, ne possède pas trace des organes en question. » Bref, je crois que je me pourlècherai à rédiger des bulletins de fin de trimestre pour les jeunes pestes de ma classe. Mais en voilà assez. Poursuivons notre récit. De loin en loin, il arrive qu'on rencontre des parents qui adoptent l'attitude opposée et ne manifestent pas le moindre intérêt pour leurs enfants. Ceux-là sont à coup sûr bien pires que les admirateurs béats. Monsieur et Madame Verdebois appartenaient à cette espèce. Ils avaient un fils appelé Michael et une fille du nom de Mathilda, et considéraient cette dernière à peu près comme une croûte sur une plaie. Une croûte, il faut s'y résigner jusqu'à ce qu'on puisse la détacher, s'en défaire et la bazarder. Monsieur et Madame Verdebois attendaient avec impatience le moment où ils pourraient se défaire de leur petite fille et la bazarder, en l'expédiant de préférence dans le comté voisin ou même plus loin. Il est déjà assez triste que des parents traitent des enfants ordinaires comme s'ils étaient des croûtes ou des corps aux pieds. Mais cette attitude est encore plus répréhensible si l'enfant en question est extraordinaire. J'entends par là aussi sensible que doué. Mathilda était l'un et l'autre, mais par-dessus tout, elle était douée. Elle avait l'esprit si vif et si délié et apprenait avec une telle facilité que même les parents les plus obtus auraient reconnu des dons aussi exceptionnels. Mais monsieur et madame Verdebois étaient, eux, si bornés, si confinés dans leur petite existence étriquée et stupide, qu'ils n'avaient rien remarqué de particulier chez leur fille. Pour tout dire, fut-elle rentrée à la maison en se traînant avec la jambe cassée qu'ils ne s'en seraient pas aperçus. Le frère de Mathilda, Michael, était un garçon tout à fait normal. Mais devant sa sœur, je le répète, vous seriez restés comme deux ronds de flanc. Presque chaque après-midi, Mathilda se trouvait seule à la maison. Son frère, de 5 ans son aîné, allait en classe. Son père était à son travail et sa mère partait jouer au loto dans une ville située à une dizaine de kilomètres de là. Madame Verdebois était une mordue du loto et y jouait 5 après-midi par semaine. Ce jour-là, comme son père avait refusé de lui acheter un livre, Mathilda décida de se rendre toute seule à la bibliothèque du village. Quand elle arriva, elle se présenta à la bibliothécaire, Madame Folliotte. Puis elle demanda si elle pouvait s'asseoir et lire un livre. Madame Folliotte, déconcertée par l'apparition d'une si petite visiteuse non accompagnée, l'accueillit néanmoins avec bienveillance.
« Où sont les livres d'enfants, s'il vous plaît ?»
demanda Mathilda.
« Là-bas, sur les rayons du dessous, »
lui dit Madame Folliotte.
« Veux-tu que je t'aide à en trouver un joli ?» Avec beaucoup d'images?
Non, merci. Je me débrouillerai bien toute seule.
À dater de ce jour-là, chaque après-midi, aussitôt sa mère partie pour aller jouer au loto, Mathilda trottinait jusqu'à la bibliothèque. Il n'y avait que 10 minutes de trajet, ce qui lui permettait de passer 2 heures merveilleuses assise tranquillement dans un coin à dévorer livre sur livre. Après avoir lu tous les livres d'enfants disponibles, elle se mit à fureter dans la salle en quête d'autres ouvrages. Madame Folliot, qui l'avait observée avec fascination durant plusieurs semaines, se leva de son bureau et alla la rejoindre.
Je peux t'aider ?
Je me demande ce que je pourrais lire maintenant. J'ai fini tous les livres d'enfants.
Tu veux dire que tu as regardé toutes les images ?
Oui, mais j'ai aussi lu tout ce qui était écrit.
Madame Folliot considéra Mathilda de toute sa hauteur. Et Mathilda, le nez en l'air, soutint son regard.
J'en ai trouvé quelques-uns bien mauvais. Mais d'autres étaient très jolis. Celui que j'ai préféré, c'est le jardin secret. Il est plein de mystères. Le mystère de la pièce derrière la porte fermée et le mystère du jardin derrière le grand mur.
Madame Folliot était stupéfaite.
Dis-moi, Mathilda, quel âge as-tu au juste ?
4 ans et 3 mois.
La stupeur de Madame Folliot était à son comble, mais elle eut la présence d'esprit de ne pas le montrer.
Quel genre de livre aimerais-tu lire maintenant ?
Je voudrais un de ces livres vraiment bons que lisent les grandes personnes. Un livre célèbre. Je ne connais pas les titres.
Madame Folliot, sans hâte, se mit à examiner les rayons. Elle ne savait trop à quel sein se vouer.
Comment choisit-on un livre d'adulte célèbre pour une enfant de 4 ans ?
Elle songea tout d'abord à lui donner un roman de jeune fille à l'eau de rose, du genre destiné aux adolescentes. Puis, mue par on ne sait quelle raison, elle s'éloigna résolument de l'étagère devant laquelle elle s'était arrêtée.
Tiens, si tu essayais de lire ça, c'est un livre très connu et très beau. S'il est trop long pour toi, dis-le-moi et je t'en trouverai un autre plus court et plus facile.
Les grandes espérances de Charles Dickens. J'ai très envie de m'y mettre.
Je dois être folle.
Songea Madame Folliot, ce qui ne l'empêcha pas d'affirmer.
Bien sûr, ça devrait te plaire.
Au cours des après-midi suivants, Madame Folliot eut peine à détacher ses regards de la petite fille assise des heures durant dans le grand fauteuil au bout de la pièce avec le livre sur les genoux. Le volume était en effet trop lourd pour qu'elle pût le tenir dans ses mains, si bien qu'elle devait rester penchée en avant pour pouvoir lire. Et c'était un étrange spectacle que celui de cette minuscule créature aux cheveux noirs, assise avec ses pieds qui n'atteignaient pas le sol, totalement captivée par les aventures de Pip et de la vieille Miss Havisham, dans sa maison pleine de toiles d'araignées, totalement envoûtée par la magie des mots assemblés par le prodigieux conteur qu'était Dickens. N'était par intervalle un bref geste de la main pour tourner les pages, la petite fille restait immobile. Et c'était toujours avec tristesse que Madame Folliot, l'heure venue, se levait pour aller annoncer à la lectrice
« Il est 5h10, Mathilda. »
Au bout de 8 jours, Mathilda avait fini Les Grandes Espérances, une édition qui ne comptait pas moins de 411 pages.
J'ai adoré ça. Monsieur Dickens a écrit d'autres livres ?
Tout un tas. Tu veux que je t'en choisisse un second ?
Au cours des 6 mois suivants, sous l'œil ému et attentif de Madame Folliot, Mathilda lut les livres suivants. Nicholas Nickleby, de Charles Dickens. Oliver Twist, de Charles Dickens. Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Orgueil et Préjugé, de Jane Austen. Tess d'Uberville, de Thomas Hardy. Kim, de Rudyard Kipling. L'Homme Invisible, de H.G. Wells. Le Vieil Homme et la Mer, d'Ernest Hemingway. Le Bruit et la Fureur, de William Faulkner. Les Raisins de la Colère, de John Steinbeck. Les Bons Compagnons, de J.B. Priestley. Le Rocher de Brighton, de Graham Greene. La Ferme des Animaux, de George Orwell. C'était une liste impressionnante, et Madame Folliot était maintenant au comble de l'émerveillement et de l'excitation. Mais sans doute fit-elle bien de ne pas donner libre cours à ses émotions. Tout autre témoin des prouesses littéraires d'une si petite fille se serait sans doute empressé d'en faire toute une histoire et de clamer la nouvelle sur les toits. Mais telle n'était pas Madame Folliot. Madame Folliot savait rester discrète et avait depuis longtemps découvert qu'il était rarement bon d'intervenir dans la vie des enfants des autres.
Monsieur Hemingway dit des tas de choses que je ne comprends pas, surtout sur les hommes et les femmes, mais j'ai beaucoup aimé son livre quand même. Avec sa façon de raconter les choses, j'ai l'impression d'être là, sur place, et de les voir arriver.
Un bon écrivain te fera toujours cet effet. Et ne t'inquiète donc pas de ce qui t'échappe. Lis tranquillement et laisse les mots te bercer comme une musique.
D'accord, d'accord.
Sais-tu que dans les bibliothèques publiques comme celle-ci, il est possible d'emprunter des livres et de les emporter chez soi?
Mais non, je ne savais pas. Cela veut dire que je peux en emporter, moi?
Bien sûr. Quand tu as choisi le livre que tu désires, tu me l'apportes, que je puisse le noter dans le cahier. Et il est à toi pour 15 jours. Tu peux même en prendre plus d'un si tu en as envie.
À dater de ce jour-là, Mathilda ne se rendit plus à la bibliothèque qu'une fois par semaine pour y prendre des nouveaux livres et rendre ceux qu'elle avait lus. Sa petite chambre était devenue sa salle de lecture. Et elle y passait le plus clair de ses après-midi à lire, avec bien souvent une tasse de chocolat chaud à côté d'elle.